dessous de l'infox. Adrien Delgrange.
19h10 à Paris, bonsoir à tous. Démêler le vrai du faux, comprendre la fabrique d'une fausse information. Bienvenue à tous dans les dessous de l'infox.
RFI.
Avec au sommaire cette semaine, les tensions entre le Rwanda et la RDC. Nous en parlons avec les observateurs de France 24. Il sera également question du Covid-19 avec la reprise épidémique, le rebond des théories complotistes. Et puis enfin, comment informer avec un dessin de presse. Invité des dessous, Elisabeth de Pourquerie, journaliste et dessinatrice de presse pour France Télévisions. Les Dessous de l'Infox, une émission réalisée par Hélène Avril. Les Dessous de l'Infox d'RFI accueillent ce soir la rédaction des observateurs de France 24. Bonsoir Aude de Gève.
Bonsoir.
Pour nous parler des tensions qui se multiplient entre la République démocratique du Congo et le Rwanda depuis maintenant quelques semaines. En cause, le M23, un mouvement rebelle qui a repris les armes dans le nord de la RDC. Il est soupçonné par les autorités congolaises d'être soutenu par le Rwanda. Aux observateurs de France 24, eh bien, vous avez travaillé sur des vidéos trompeuses qui alimentent les tensions.
Oui, nous avons reçu beaucoup de vidéos. L'une d'elles, par exemple, prétend montrer un étudiant congolais persécuté par des Rwandais.
Alors que voit-on sur ces images ?
Eh bien, on voit un jeune garçon. Il est attaché à une poutre, les pieds et les mains ligotés, de manière à ce qu'il ne puisse pas toucher le sol. Et il a l'air complètement terrifié. La victime est entourée d'un groupe d'hommes. L'un d'eux le frappe plusieurs fois au visage.
Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que la vidéo ne concerne pas les tensions actuelles entre la RDC et le Rwanda ?
Alors, nous avons demandé à des confrères en RDC d'identifier la langue parlée dans la vidéo. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est ni une langue parlée en RDC ni au Rwanda. Et puis finalement, un journaliste ghanéen a reconnu le Dagbani. C'est une langue uniquement parlée au Ghana. Donc si l'on traduit la vidéo, on comprend que la victime est en fait accusée de vol par ses bourreaux. Ces accusations sont donc fausses et la vidéo montre la punition d'un voleur présumé, donc très probablement au Ghana. Et d'ailleurs, la vidéo nous faisait penser à des punitions qui peuvent être infligées à des personnes parfois accusées de vol par des milices en Afrique de l'Ouest, parce qu'aux observateurs, on reçoit régulièrement ce genre d'images.
La désinformation, Aude de Gève, est-elle uniquement sur les réseaux sociaux côté congolais ?
Non. Non, par exemple, nous avons aussi reçu une vidéo qui, elle, est partagée par des comptes plutôt pro-Rwanda et qui prétend montrer des Tutsis traqués par des Congolais. En fait, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les Rwandais s'inquiètent beaucoup du sort réservé aux Tutsis et aux Rwandophones en RDC parce que pour eux, ces tensions évoquent le génocide au Rwanda.
Et alors, que voit-on sur cette vidéo ?
Bien, sur cette vidéo, on voit des jeunes garçons armés qui poursuivent d'autres garçons. L'un d'eux a par exemple dans la main une machette et il se bat avec contre un autre qui donne des coups de pelle. Ce qui nous met la puce à l'oreille sur cette vidéo, en fait, ce sont des commentaires d'internautes. Certains parlent d'un affrontement entre des gangs appelés Kuluna. Les Kuluna, ce sont des gangs ultra-violents de jeunes délinquants RDC. Et en recherchant des vidéos sur les Kuluna, nous avons nous-mêmes trouvé la vidéo qui avait été publiée par un journaliste congolais. Ce journaliste nous a expliqué que c'était un affrontement entre des gangs Kuluna en janvier dernier à Kinshasa. La vidéo avait été filmée par une habitante du quartier.
Des vidéos qui ont des graves conséquences.
Oui, ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux en RDC au Rwanda sont inondés de vidéos trompeuses. Les appels à la haine se multiplient. En fait, les Congolais et les Rwandais s'accusent mutuellement de persécuter leur population. D'un côté, les autorités congolaises soupçonnent le Rwanda de vouloir s'emparer de territoires et de ressources à l'est de la RDC. Et de l'autre côté, le Rwanda accuse la RDC de soutenir un mouvement pro-Hutu qui est responsable d'exactions contre les Tutsis. Et en fait, tous ces discours sont amplifiés par des vidéos manipulatoires qui sont présentées comme des preuves sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que ces rhétoriques ont des conséquences réelles. Parce que, par exemple, le 15 juin, en marge d'une manifestation en RDC contre le Rwanda, des magasins qui appartiennent à des Rwandais, des Tutsis et des Congolais rwandophones ont été pillés. Donc, si vous voyez une vidéo qui accuse une communauté ou une ethnie, il faut absolument être attentif et bien se demander si la vidéo est vraie ou si elle relaie un contenu xénophobe.
Merci Aude. Aude de Gève dans l'émission Les Dessous de l'Infox. Vous pouvez retrouver les articles dans leur intégralité sur le site des observateurs de France 24. Place place à la chronique des Dessous de l'Infox. Nous sommes avec Sophie Malibo, Grégory Genevrier. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Et cette semaine, vous avez décidé de revenir sur le Covid-19. La pandémie repart à la hausse un peu partout dans le monde, notamment en Europe et aux États-Unis. Une reprise épidémique qui s'accompagne d'un rebond des théories complotistes autour de la pandémie. Sur les réseaux sociaux, tout d'abord, Grégory, certains instrumentalisent des propos de Joe Biden.
Oui, l'épidémie de coronavirus et la vaccination des moins de 5 ans étaient au menu d'une conférence de presse du président états-unien. C'était ce mardi. Interrogé par un journaliste sur les moyens nécessaires pour continuer à lutter contre le virus, Joe Biden a dit ceci, on l'écoute.
We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead.
Nous avons besoin de plus d'argent pour préparer la seconde pandémie. Il y aura une autre pandémie. Nous devons penser à l'avenir. C'est ce qu'a déclaré le président des États-Unis.
Ces propos, Grégory, ont choqué et ont été relayés en masse sur les réseaux sociaux où le message a été déformé.
Oui, déjà, il y a un problème de traduction et surtout d'interprétation de ces propos. Plan for the second pandemic. To plan, ça peut à la fois vouloir dire prévoir et planifier. Mais dans ce contexte, aucun doute, il s'agit ici d'anticiper une nouvelle pandémie et non pas de l'organiser. Cette formulation, elle a permis aux complotistes de s'engouffrer dans la brèche. Exemple avec ses tweets, le message est clair, les gouvernements organisent ces pandémies. Ou encore, je cite, comment pourrait-il savoir ? Voilà, tout est prévu. Ces internautes partagent tous ce même extrait vidéo que l'on a entendu, vu plus d'1,5 million de fois sur Twitter. Certains évoquent même une pandémie organisée par Joe Biden pour manipuler les prochaines élections. C'est notamment le cas de journalistes, mais aussi de politiques proches du clan Donald Trump. Cette infox devenue virale, elle sert la théorie de la plandémie, le mythe complotiste d'une pandémie planifiée, voire totalement inventée à des fins politiques.
En réalité, ce que dit le président américain Joe Biden, Sophie Malibo, repose sur un consensus scientifique.
Tout à fait, c'est un constat. Les zoonoses, qui sont ces maladies transmises à l'homme par les animaux, se multiplient. Il y a eu le SRAS, le MERS, Ebola, la grippe aviaire, Zika, la variole du singe et bien sûr le Covid-19, même si des doutes persistent sur l'hôte intermédiaire du virus. Les causes avancées par les spécialistes mentionnent l'évolution de nos modes de vie, l'urbanisation, la déforestation, le réchauffement climatique qui perturbe les écosystèmes et qui font que les espèces se transmettent de plus en plus facilement les virus. Il est donc normal que la communauté scientifique se penche sur la question et pour que la recherche progresse, il faut des financements. Ce n'est donc pas étonnant que le président des États-Unis cherche à accroître les moyens dans ce domaine et il n'est pas le seul d'ailleurs.
Nous sommes donc bien là dans une démarche de prévention.
Oui, en l'état de la recherche, de futures pandémies paraissent inévitables. Cela ne veut pas dire qu'on ne saura pas les maîtriser et qu'elles seront forcément dévastatrices. Mais c'est bien la raison pour laquelle on met beaucoup d'argent dans les études qui permettent d'anticiper leur émergence et leur diffusion. Cela s'appelle à proprement parler la prévention. Or, dans le narratif complotiste, il y a un glissement de sens entre prévention et planification. S'organiser pour mettre en place les outils de lutte contre les futures zoonoses, ce n'est pas fabriquer la prochaine pandémie. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à prévoir les conditions favorables à un départ d'incendie que vous êtes celui qui l'a déclenché.
Sophie Malibo, Grégory Genevrier, pour la chronique des Dessous de l'Infox, à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. Comment informer avec le dessin de presse ? Invité des Dessous de l'Infox, Elisabeth de Pourquerie.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes journaliste, dessinatrice de presse pour France Télévisions. Vous couvrez, vous croquez depuis maintenant près de 9 mois le procès des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Tout d'abord, pour comprendre votre métier, votre travail, un art sur le vif, vous restituez en quelques secondes, voire quelques minutes, ce que vous voyez. C'est un peu ça la définition de votre métier ?
Oui, c'est une manière d'observer complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est qu'effectivement, vous avez les yeux rivés sur les accusés, sur ce qui se passe à l'intérieur de ce petit théâtre que représente une salle d'audience. Vous devez le retranscrire en dessin, en couleur, avec des crayons, des pinceaux. Et c'est toute la sensibilité qui ressort aussi à travers ce travail d'artiste, mais aussi un travail journalistique.
Avec une grande, voire très grande responsabilité sur le message que vous allez véhiculer.
Oui, parce que les accusés que vous montrez, puisque c'est souvent les images qui manquent, on ne peut pas filmer, puisque par définition, les accusés qui sont dans le box, on ne peut pas les filmer, en tout cas en France pour l'instant, et vous les dessinez. Et dans le dessin que vous allez donner, vous montrez bien sûr l'image la plus fidèle, réaliste quand même, de l'accusé, mais aussi toute l'histoire, toute son histoire et toute la manière dont vous, vous percevez l'histoire. Forcément, c'est un peu subjectif, mais j'essaye d'être au plus près de la réalité, d'être le plus juste possible.
Dans la salle d'audience, à quel endroit vous vous trouvez précisément ?
Alors, les dessinateurs sont toujours au meilleur endroit. C'est-à-dire que les journalistes qui écrivent leurs articles, eux, sont sur les bancs de la presse, mais ils ne sont pas forcément très bien placés. Les dessinateurs, pour une question de vue, justement, pour être dessiné le mieux possible, de manière le plus réaliste, il faut être au plus près de la barre ou au plus près du box des accusés. Donc on est au pied de la cour, donc vraiment aux premières loges pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur du procès. Vous pouvez être assise à côté d'Abdeslam, vous n'êtes même pas à 50 cm, moins d'un mètre en tout cas de son visage, qui est quand même assez incroyable, et être aussi près de cette distance des magistrats, des avocats, et ce qui fait que ça vous donne une liberté, parce que vous avez besoin, quand vous dessinez, de changer d'angle, de montrer ce qui se passe, de réagir vite. Parfois, vous avez un échange qui se passe entre un accusé, entre Salah Abdeslam et le président de la cour, ou entre les avocats généraux et un autre avocat, et ça, il faut le montrer, et il faut le montrer vite, et il faut le montrer de manière la plus juste possible. Donc là, vous devez bouger et essayer de changer l'angle pour montrer la situation la plus juste et la plus réelle possible.
Et vous dites, Elisabeth de Pourquerie, que pour relater un procès de la manière la plus précise, c'est le visage qui parle le plus.
Oui, le visage, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Même si la gestuelle, évidemment, ça compte. Si au bout de 9 mois, vous pensez bien que chaque accusé, on sait à peu près quels sont les gestes qu'il va faire et qu'il va refaire. Mais le visage, c'est le plus important. Parce que c'est les yeux, même quand on est masqué avec tous ceux qui ont eu le Covid, hein, même masqué, avec leurs yeux, ils expriment plein de choses. Et on peut voir sur un accusé, dans ses yeux, ce qu'il ressent. Et voilà, s'il y a une agressivité, en tout cas Salah Abdeslam est toujours extrêmement attentif à ce qu'on dit de lui pendant le procès, à ce que les avocats, les victimes pensent de lui, et ça se voit tout de suite dans son regard. Et souvent je dessine son visage pour ça.
En l'occurrence, là, nous sommes devant l'un de vos derniers dessins et j'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet d'RFI.fr, la page Les Dessous de l'Infox, pour voir la photo que vous allez nous décrire.
Alors là, c'est un dessin qui date du réquisitoire, du procès du V13, qu'on appelle le V13, donc le 13 novembre 2015, des attentats. Et donc, nous avons Salah Abdeslam qui est très attentif à ce que, en train de lire un des avocats généraux sur lui et sur le fait qu'il est coupable, enfin voilà, qu'il n'y a pas de doute possible. Et le fait de regarder ça en face, sur ce dessin, vous avez à la fois l'écran qui montre l'avocat général en train de raconter un peu sa vie, et vous avez le visage de Salah Abdeslam dans le box qui écoute cette vie-là, cette vie qui est la réalité, et la réalité de ce qu'il n'a pas voulu forcément raconter, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas voulu dire. Mais ses yeux, là vous voyez dans ce dessin à l'aquarelle, ses yeux un peu ronds, un peu tendus, et qui écoute vraiment, et c'est vraiment lui, cette notion d'être attentif à tout ce qui se passe et surtout au jugement que les autres ont sur lui.
Comment vivez-vous, comment assumez-vous cette interprétation de la vérité du procès que vous tentez d'offrir au plus grand monde ?
Ah ben c'est une grosse responsabilité, c'est sûr. Mais en même temps, chaque personnalité, on est plusieurs dessinateurs, on a tous une manière un peu différente de montrer les accusés, de montrer ce qui se passe à l'intérieur du procès. Et forcément, moi je suis une dessinatrice, une femme, je ne montre peut-être pas les choses de la même manière, mais je trouve que dans son visage, il y a à la fois, il y a plein de choses, énormément de contradictions. C'est ça qui est étonnant dans ce personnage, dans cet accusé. C'est-à-dire que autant en Belgique, il ne voulait rien dire lorsqu'il a été jugé, autant en France, il a complètement changé d'attitude. Son avocate a réussi à le convaincre de parler à certains moments tout en préservant sa parole et en calmant ses accès de colère où il voulait parler de manière intempestive sans demander à qui que ce soit. Elle a quand même réussi, Olivia Ronan, à le calmer, à réguler sa parole, mais aussi à le faire parler. Et on a entendu des choses dans ce procès qu'on n'aurait jamais pu entendre si la défense, les avocats de la défense n'avaient pas été là pour l'accompagner. Et ça, c'est très important parce que cette mise en confiance, on le voit dans ce dessin et on voit très bien dans ses yeux cette partie émotive, cette sensibilité qu'il y a à l'intérieur de cet accusé. Et bon, même si c'est très dérangeant pour beaucoup de victimes et de familles de victimes de voir un personnage vivant, humain, c'est terrible de se dire que Salah Abdeslam peut être humain. Mais c'est quand même une réalité, en tout cas c'est une réalité que je vois et que je fais passer dans mes dessins parce qu'elle est là.
En tant que dessinatrice de presse, là nous parlons du principal accusé du procès du 13 novembre. Évidemment, votre regard aussi porte sur l'entièreté de la salle d'audience.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le box des accusés. Il faut aussi bouger avec ses pinceaux, prendre ses aquarelles, ses palettes, ses papiers et aller aussi au fond de la salle. Parce qu'on va voir des choses complètement différentes. Et aussi dans les salles de retransmission. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent finalement se protéger aussi, qui n'ont pas envie de rentrer dans la grande salle et qui veulent être dans des salles où ils savent qu'ils sont un peu à l'abri. Et en même temps, ils voient sur les écrans la retransmission du procès. Et c'est important d'être près du public, près des victimes et familles de victimes, parce que vous voyez des réactions, vous voyez bien sûr la colère qui s'exprime souvent, mais aussi une forme de résilience. Et le fait de voir les accusés sur l'écran ou les propos des avocats généraux, le réquisitoire, ça leur fait du bien. Quelque part, ça soigne quelque chose à l'intérieur, même si, évidemment, ça ne peut pas tout résoudre. Mais en tout cas, ça leur permet de tourner une page après ce procès. Et ça, il faut le montrer, bien sûr.
Vos dessins donc, nous donnent à voir ce que l'on ne peut pas voir dans les principaux journaux télévisés de France. Subissez-vous des pressions ?
Écoutez, j'en ai jamais eu. Hein. On ne m'a jamais dit qu'il ne fallait pas le dessiner comme ça. Ça dépend des moments, mais j'essaye de ne pas trop caricaturer en fonction des procès. C'est-à-dire qu'un procès, là on est quand même dans un procès historique, dans un procès important au niveau de l'histoire, au niveau de ce que ça va comporter pour toute une génération. Donc on ne peut pas le dessiner de la même manière que si vous dessinez un procès de pédophilie ou d'autres choses, ou un procès politique, où là vous allez avoir envie de caricaturer certains personnages, puisque voilà, ça peut arriver. Mais là, non. Là, j'essaye d'être le plus juste, le plus fidèle possible à la réalité. Mais en revanche, au niveau des pressions, j'ai pas de pression particulière. La seule pression, c'est la pression de l'antenne. Moi, je travaille pour la télévision et je sais que c'est l'heure du JT. Il faut que le dessin soit le plus juste possible et le plus fini possible avant d'être diffusé à l'antenne. Et parfois, ça peut aller vite. Donc, j'ai très peu de temps parfois pour faire un dessin. Et ce qui est dur, la pression, là, pour le coup, elle s'exerce à se dire... Bon, est-ce que le dessin est suffisamment fini pour que je puisse l'envoyer et le mettre à l'antenne tout de suite ? C'est ça ma pression.
Merci beaucoup, Elisabeth de Pourquerie, de nous avoir accordé cet entretien. Je précise aux auditeurs qu'il a été enregistré au pied du palais de justice de Paris, en plein cœur de la capitale, et que le procès du 13 novembre touche à sa fin avec un verdict attendu le 29 juin prochain. Merci à vous et bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Ainsi se referment les dessous de l'Infox pour cette semaine. Merci à Sigrid Azeroual, Hélène Avril, Florence Ponce qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro des dessous de l'Infox. Témoin d'actu.